Merci d'écouter RFI, les 22h à Paris, 20h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
L'heure de retrouver, comme tous les soirs, votre journal en français facile, avec à la une le monde de la culture à l'arrêt pour dénoncer le racisme aux États-Unis et demander du changement. La colère gronde toujours dans le pays, une semaine après la mort d'un Afro-Américain, George Floyd, pendant son arrestation par des policiers blancs. Joe Biden a critiqué aujourd'hui la réponse de Donald Trump aux manifestations. En France, cela fait 4 ans que la famille d'Adama Traoré demande justice. Lui aussi est mort suite à un contrôle de gendarmes. Une nouvelle expertise pointe leur responsabilité. Une manifestation est toujours en cours dans le nord de Paris. Et puis des passagers aussi éloignés que possible. Des désinfections régulières, mais pas forcément. Un siège sur deux. L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale publie ses recommandations pour la reprise des voyages en avion face au coronavirus.
Les journaux.
Le journal en français facile.
En français facile.
7e nuit de colère et de manifestations aux États-Unis, une semaine après la mort de George Floyd, et alors que 2 autopsies, une indépendante et l'autre officielle, ont statué hier soir qu'il était bien mort d'asphyxie, c'est-à-dire étouffé pendant son arrestation par un policier blanc. À New York, le couvre-feu commencera ce soir 3 heures plus tôt qu'hier, à 20h. La police a arrêté des centaines de personnes après des pillages sur la 5e avenue lundi soir. La colère monte et les messages de soutien aux manifestants se multiplient. Après le sport, le cinéma et les plateformes de streaming, c'est au tour de l'industrie musicale de lancer aujourd'hui le Blackout Tuesday. Ça veut dire le mardi débranché, Myriam Berber.
Faire bloc contre les violences policières et les discriminations, c'est l'objectif de ce mouvement qui est appelé à durer. Concrètement, aujourd'hui, les entreprises musicales vont fermer leurs bureaux pour la journée. Les plateformes de téléchargement vont inclure dans leur playlist des silences de 8 minutes et 46 secondes, la durée pendant laquelle l'officier de police Derek Chauvin a collé son genou contre le cou de George Floyd. Même soutien du côté du secteur du jeu vidéo. PlayStation et Sony ont décidé de reporter le lancement de plusieurs produits. Malgré les pillages et le mauvais climat des affaires, les grandes entreprises américaines dans leur ensemble témoignent de leur solidarité avec les manifestants. Nike, Netflix, Disney ou encore des banques comme Citigroup dénoncent le racisme qui ronge la société américaine. Un soutien pour la cause noire qui n'est pas dénué d'arrière-pensée en cette période d'incertitude économique.
Myriam Berber, et la semaine de colère qui vient de s'écouler aux États-Unis a poussé Joe Biden à s'aventurer hors de son état du Delaware pour la première fois depuis mi-mars. Lors d'un discours à Philadelphie, aujourd'hui, l'ex-vice-président, candidat démocrate à la présidence présidentielle de novembre, a accusé Donald Trump d'avoir transformé le pays en champ de bataille. Le président américain a menacé hier de déployer l'armée contre les manifestants. Joe Biden dénonce aussi l'opération de communication de Donald Trump, qui s'est rendu hier devant une église près de la Maison Blanche, une Bible à la main. Quelques minutes avant, des manifestants près de la résidence du président étaient dispersés par la police avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que Donald Trump est critiqué pour sa réponse aux manifestations. Son extrême fermeté ne passe pas inaperçue à Pékin et à Hong Kong. Le chef de la diplomatie chinoise dénonçait hier la maladie chronique du racisme et les violences policières aux États-Unis. La chef du gouvernement de Hong Kong dénonce de son côté le deux poids, deux mesures de Donald Trump qui traite d'un côté les manifestants américains d'émeutiers ou de terroristes, mais qui salue dans le même temps les militants pro-démocratie dans la province et dénonce la loi sur la sécurité nationale que la Chine veut leur imposer. Mais la Chine et ses soutiens ont-ils raison de faire cette comparaison? Pas forcément, nous dit Philippe Lecor, il est chercheur à la Harvard Kennedy School.
Le sujet de Hong Kong, il est, je dirais, séparé. Il est lié au fait qu'il y a eu, en 1984, une déclaration conjointe entre la Chine et le Royaume-Uni, et que la Chine s'est engagée a respecté ce texte pendant 50 ans, à compter du 1er juillet 1997. Et ce texte, il prévoit l'autonomie judiciaire de la région administrative spéciale de Hong Kong. Donc, que les Américains aient pris la tête de ce mouvement, c'est un sujet, on peut ironiser dessus, mais en tout cas, ils le font parce qu'il y a eu une rupture dans le respect de ce texte, et l'Europe a également dénoncé ce qui se passe à Hong Kong. Mais cette loi, ça va être une manière pour la Chine de tourner le dos à cette déclaration conjointe. Il n'y aura plus un pays de système, ce sera un pays, un système. Maintenant, faire le parallèle entre la Chine et les États-Unis, c'est vrai que c'est extrêmement tendancieux et risqué parce que chaque pays a son contexte, chaque pays a son système social, a sa constitution. En Chine, la répression est quand même, quotidienne, notamment dans les médias sociaux, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis et en Occident. Et le sujet de Hong Kong, il n'est pas discutable dans la mesure où cette loi, elle va entraver l'accord sino-britannique de 1984.
Propos recueillis par Heike Schmidt. Je vous en parlais en début de journal. Aux États-Unis, l'autopsie indépendante demandée par la famille de George Floyd a poussé les autorités à reconnaître hier soir que George Floyd était mort d'asphyxie pendant son arrestation. C'est le même débat qui se joue en France autour de la mort d'Adama Traoré il y a 4 ans. Une nouvelle expertise demandée par ses proches met en cause les gendarmes qui l'avaient interpellé. Malgré l'interdiction de manifester, des milliers de personnes se sont réunies ce soir devant le tribunal à Paris pour demander justice pour Adama Traoré. Après une manifestation dans le calme, des heurts ont éclaté. La police a fait usage de gaz lacrymogène. Un incendie est en cours sous un pont. Certains manifestants bloquent une partie du boulevard périphérique.
Le journal en français facile.
Au moment où les relations entre les Chinois et les États-Unis sont de plus en plus tendues, les Palestiniens s'emploient à renforcer leurs relations avec Pékin. Ces derniers ont déjà coupé tout lien avec les États-Unis depuis la décision de Donald Trump de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem. S'allier avec la Chine pour les Palestiniens est un moyen d'essayer d'empêcher Israël d'annexer, c'est-à-dire d'appliquer sa souveraineté sur des pans entiers de la Cisjordanie. Correspondance dans les territoire palestinien d'Alice Froussard.
Nous voulons voir la Chine jouer un rôle plus important dans la région, affirment des cadres de l'autorité palestinienne, car selon eux, l'administration Trump, je cite, s'est discréditée en prenant parti pour Israël en voulant jouer un rôle dans un quelconque processus de paix, alors que de son côté, Pékin a toujours maintenu sa position en faveur du peuple palestinien. Le ministre des Affaires étrangères chinois a encore écrit la semaine dernière à son homologue palestinien, soulignant la profonde préoccupation de la Chine concernant l'annexion des parties de la Cisjordanie. Et Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a d'ailleurs réitéré son soutien au régime chinois. Selon lui, la Chine peut étendre sa souveraineté à tous ses territoires, y compris Hong Kong. Autre preuve de ce rapprochement sino-palestinien. Une équipe médicale chinoise est en passe d'arriver en Cisjordanie pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Et les Chinois ont donné des subventions à l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Un rapprochement stratégique selon des analystes, surtout au moment où Pékin s'emploie avec ardeur à dépasser le statut de superpuissance des États-Unis dans la région. Et quand l'influence grandissante de la Chine en Israël semble de plus en plus problématique pour les Américains, en cherchant à se rapprocher des Chinois, les Palestiniens font ainsi un pied de nez à Washington. Alice Froussard, Ramallah, RFI.
Et puis, après des mois de blocage dû au coronavirus, pourra-t-on bientôt reprendre l'avion? L'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, a publié une série de recommandations sanitaires que les compagnies doivent respecter pour les voyages, Altine Lazage.
Les compagnies aériennes sont un peu rassurées car l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ne préconise pas finalement de laisser libre un siège sur deux pour assurer la distanciation physique entre les passagers. Le secteur jugeait ce système intenable économiquement. L'organisation demande cependant que les voyageurs soient aussi éloignés les uns des autres que possible en fonction du taux d'occupation de l'avion. Autre mesure préconisée, le port du masque obligatoire à l'intérieur du terminal ainsi qu'à bord des appareils. La nourriture à bord devra être préemballée et l'avion désinfecter régulièrement. L'organisation propose entre autres que chaque voyageur présente à son arrivée à l'aéroport une déclaration de santé et subisse un premier contrôle de température. Les passagers sont priés de voyager aussi léger que possible, soit avec un petit bagage à main. Ils ne devront pas être accompagnés de tiers dans les espaces des aéroports, sauf pour les personnes handicapées. Toutes ces mesures pourraient évoluer en fonction de l'évaluation des risques et n'ont pas de caractère obligatoire pour les compagnies.
Altine Lazage, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi.
Qu'est-ce que tu regardes ?